France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La mémoire dans le nez, déambulation olfactive à l'Osmothèque. L'Osmothèque, conservatoire international des parfums, conférences, ateliers, événements. L'Osmothèque, eh bien allons-y. Bonjour,
bienvenue.
Xavier Mauduit du cours de l'histoire.
Bienvenue à l'Osmothèque.
Alors, on rentre. Vous êtes Anne-Cécile Pouan ?
Oui.
Ah, super.
Bienvenue.
Vous êtes la directrice de l'Osmothèque ?
Je suis la directrice de l'Osmothèque, absolument.
C'est quoi l'Osmothèque ?
Alors, l'Osmothèque, c'est le conservatoire, le seul et unique conservatoire de parfums au monde.
C'est-à-dire que vous conservez les odeurs ici ?
Oui, osmo, osmé, odeur, teke, rangement. Donc, on est une bibliothèque d'odeurs et plus précisément de parfums.
Bon, c'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui parce que ça me semble extrêmement complexe d'archiver une odeur. Archiver des matières qui portent une odeur, ça je l'imagine bien. Donc, c'est ce que vous faites ici. Mais le parfum n'est pas l'odeur. Ce sont deux choses différentes. Le parfum, c'est une construction.
Ah, le parfum, c'est absolument une construction. Justement, un assemblage très sophistiqué et très pensé de matières pour obtenir justement le parfum souhaité par le parfumeur créateur.
L'Osmothèque, c'est une ancienne institution. Ça fonctionne comment ?
C'est une association à but non lucratif sous statut loi 1901 qui a été créée il y a presque 40 ans maintenant par des parfumeurs avec l'idée qu'il fallait absolument garder la trace de ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs.
Donc vous êtes installé à Versailles, institution pour les parfumeurs, pour les scientifiques aussi ?
Ah oui, depuis sa création, en fait, bien qu'elle ait été créée par des parfumeurs, l'Osmothèque a voulu s'adresser à tous les publics en fait, qui pouvaient avoir un intérêt pour le parfum. Et évidemment, étant créée par des professionnels, ça intéressait directement leur art. On est la mémoire de la parfumerie, mais aussi le grand public qui se passionne pour le parfum et la chose olfactive.
L'Osmothèque est-elle ouverte au public ?
Ah oui, elle est ouverte au public, mais alors pas tout le temps. On n'est pas un musée ouvert tous les jours, on est un conservatoire. Donc les activités de conservation, de préservation nous occupent beaucoup. Et on ouvre à l'occasion d'événements, de conférences olfactives, de présentations de parfums. Donc il faut toujours prendre rendez-vous pour venir à l'Osmothèque.
Alors là, nous sommes dans l'entrée de l'Osmothèque. Il y a déjà plein de flacons. Et qui vois-je ? Eugénie Briot. Bonjour Eugénie Briot.
Bonjour Xavier.
Historienne des parfums, la fabrique des parfums, c'est la naissance d'une industrie du luxe, c'est ce que vous avez particulièrement étudié. Est-ce que c'est important pour une historienne du parfum d'avoir un site et même, j'ai envie de dire, une initiative, une aventure comme celle de l'Osmothèque ?
C'est plus qu'important, c'est crucial. C'est vrai que sans l'Osmothèque, quantité des parfums qui sont conservés ici auraient complètement disparu, non seulement des mémoires, mais du monde. Et c'est vrai que l'Osmothèque permet aux chercheurs de retrouver le parfum tel qu'il était à l'origine, autant que possible, aussi proche de la façon dont il a été imaginé par un parfumeur il y a parfois beaucoup plus de 100 ans. Donc c'est un lieu extrêmement précieux et c'est un lieu aussi, je sais que voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à la parfumerie, quand j'étais petite fille, savoir qu'il existe, ça m'a permis de considérer le parfum comme un objet à partir duquel on pouvait mener des recherches. Ça l'a construit aussi, à mes yeux, comme un objet de culture et pas seulement comme un produit qu'on pouvait acheter et porter. Et ça, c'est un changement de perspective qui a sans doute beaucoup joué aussi pour construire mon envie d'en faire un objet d'histoire et un centre d'intérêt pour toute ma vie.
Parce que historienne du parfum, c'est un peu la même démarche d'ailleurs pour l'histoire du spectacle. Le spectacle, on ne le voit pas, mais pour le spectacle, il y a des sources considérables, et notamment pour une pièce de théâtre, la transcription de la pièce. Donc on a du texte, on a du commentaire sur la pièce. Pour le parfum, il y a l'aspect industriel, bien sûr. Le flacon qui reste, c'est autre chose. Mais l'odeur elle-même, est-ce que vous avez des sources qui décrivent une odeur ? C'est difficile ça de décrire une odeur.
Alors, il existe des sources, même parfois très anciennes. On a des sources, par exemple, pour l'Égypte antique. Un parfum comme le kifi, qui était un des parfums sacrés des Égyptiens, on en trouve des formules à plusieurs endroits. Donc, dans les temples d'Edfou, de Philae, en Égypte, on trouve des formules qui sont inscrites sur les parois du temple dans une pièce qui était appelée que les archéologues ont appelée le laboratoire. Et ça peut être une source, évidemment, vraiment extrêmement précieuses. Mais on n'a pas toujours les quantités, on n'a pas toujours la possibilité d'identifier de façon très sûre chacun des ingrédients qui figurent dans la formule. Donc finalement, derrière, même quand on a la formule, derrière chaque mention, il y a plein de questions, plein de petites énigmes à résoudre. Et c'est ça aussi qui fait toute l'ampleur du travail qui est mené par l'Osmothèque, même parfois sur des formules beaucoup plus récentes.
Avec Anne-Cécile Pouhan, cette histoire ancienne du parfum, parce que là j'entends que nous remontons dans l'antiquité égyptienne. Alors vous, archives, très bien, archives des parfums, des odeurs, mais jusqu'à quand? Vous remontez jusqu'à quand?
Alors, comme l'a dit Eugénie, on remonte loin parce que le Khifi, c'est entre moins 2000 et moins 4000 de mémoire. On a une version de Khifi qui a été, reconstituée à partir des éléments justement de formule. Donc, on a ça dans nos collections. On a aussi un parfum du 1er siècle, par exemple, le fameux parfum royal qui a été restitué grâce aux écrits de Pline l'Ancien. Donc là, on est loin déjà au 1er siècle. Après, on a un certain nombre de parfums qui illustrent un peu l'histoire, le Moyen-Âge, la Renaissance. Mais le cœur de notre collection démarre avec ce qu'on appelle la parfumerie moderne, c'est-à-dire le moment où les molécules de synthèse et la chimie vont entrer dans l'art de la composition des parfums. Et là, on a des formules qui sont écrites, qui sont très précises. Alors, on a les quantités, on a les ingrédients, mais on a les ingrédients tant qu'on peut les trouver. Et c'est là où notre travail, on va dire, se corse un peu avec ces palettes qui ont beaucoup évolué et qui, du coup, aujourd'hui, rendent parfois l'exercice difficile de refaire les parfums strictement comme ils étaient à l'origine. Et c'est tout l'enjeu, en fait, du travail de repeser de l'Osmothèque.
Va falloir nous faire sentir ça, hein, parce que du parfum antique, du parfum romain, ça me fait rêver. L'idée ici est de préserver combien de parfums, combien de siècles d'histoire. Donc je l'entends, hein, on est à plus de 2000 ans d'histoire comme une évidence, mais combien de parfums?
Alors dans les collections aujourd'hui, on a pratiquement 6000 parfums, quelques milliers de matières premières, des milliers de formules de parfums qui sont jalousement et secrètement préservées à l'abri des regards, parce que c'est un sujet secret, la formule en parfumerie, et nous on s'engage à garder la confidentialité des formules qui nous sont confiées. Mais donc oui, on veille sur à peu près 6000 petits flacons qui chacun renferme une part de l'histoire de la parfumerie.
Eugénie Briot, dans cette histoire de la parfumerie, mais moi je viens de l'entendre, il y a quand même un moment qui accélère cette histoire-là avec la mise en place de formules. L'histoire des parfums, c'est une histoire millénaire, mais il y a comme une accélération, ou en tout cas un aspect beaucoup plus scientifique qui apparaît à partir de quand? Du 19e siècle?
Oui, c'est le 19e siècle qui marque un point de bascule très important pour l'histoire de la parfumerie, pour plusieurs raisons. Alors c'est le moment où la parfumerie devient une industrie, comme d'autres métiers finalement qui vont, parce que de nouvelles machines permettent de produire plus vite et à plus grande échelle, gagner une ampleur et une diffusion qu'ils n'avaient jamais connue avant. Donc il y a une démocratisation aussi de la parfumerie à ce moment-là. Mais sur le plan créatif, c'est surtout le moment où la palette du parfumeur, c'est-à-dire le nombre de matières premières auxquelles il a accès, va considérablement s'enrichir du fait de techniques nouvelles d'extraction de ces matières premières naturelles, par exemple, comme l'extraction au solvant volatil, qui va permettre d'enrichir considérablement la palette et aussi la synthèse. On va, à partir du 19e siècle, à partir du dernier quart du 19e siècle, synthétiser des molécules odorantes qui vont considérablement renouveler les techniques de composition pour les parfumeurs et leur permettre d'accéder à une créativité infiniment plus grande. Il se passe à ce moment-là un petit peu ce qui s'est passé avec l'impressionnisme en peinture. C'est vraiment une rupture sur le plan esthétique, telle que la parfumerie n'avait pas pu l'envisager auparavant, parce qu'elle n'avait pas les moyens finalement d'accéder à cette esthétique nouvelle.
Bon, une bibliothèque, je vois bien comment ça fonctionne, hein, des étagères et des livres, des archives, j'imagine bien, pour les avoir fréquentées, là, pas de problème, je les visualise, des cartons, des papiers, mais une osmothèque, Anne-Cécile Pouhan, quoi, sont des flacons avec ici des échantillons.
Alors, ça commence par des formules pour pouvoir refaire les parfums, donc des collections de formules. Après, des collections d'ingrédients qui sont nécessaires et qui entrent dans la liste de ce qu'on lit sur les formules. Donc, beaucoup d'ingrédients naturels, de synthèse, des ingrédients qui sont plus toujours autorisés aujourd'hui pour la parfumerie, mais qu'on a et qui sont très précieux pour nous pour refaire les parfums. Et puis, évidemment, le résultat concret de tout ça, c'est le parfum en lui-même. Donc, la composition, la création telle qu'elle a été souhaitée par les fondateurs. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on refait un parfum du 19e, du 20e, du début du 20e, on fait un saut finalement dans l'histoire sous l'angle olfactif. Que sentait une élégante qui sortait au théâtre en 1900 on peut le sentir chez nous. Que portaient les hommes en sortant de chez le barbier autour de 1890 on peut le sentir chez nous. Donc l'état de l'art, le goût, les styles, les tendances, tout ça, on peut avoir ce regard sur plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Donc ça nous donne une lecture finalement de la société et du lien entre l'homme et le parfum. Parce que ce qui est amusant avec le parfum, c'est que il y a toujours eu un lien très fort. Nous, avec cette collection, on peut remonter en fait toute l'évolution de ce lien si important que l'homme a entretenu avec le parfum, depuis la relation religieuse, en passant par les liens médecine, la séduction, jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui tourne peut-être plus autour du bien-être, de la personnalité. Donc toute cette évolution de la relation de l'homme au parfum, on peut la décrypter ici et c'est absolument fascinant.
Elle est belle, votre entrée de l'osmothèque, mais c'est pas ici que sont conservés tous ces parfums. Il y a un endroit, c'est des caves souterraines, voûtées, où l'on conserve ces parfums.
Alors c'est vrai que quand on parle de cave à parfums, on a envie d'aller dans les sous-sols. On est dans une dimension beaucoup plus technique ici, donc vous verrez, nos caves sont dans une pièce en fait climatisée où on garde les parfums à une certaine température. On va y aller, on va traverser l'ensemble de nos installations pour y arriver, et on va aller dans ce que nous, alors on appelle historiquement la cave. La cave, c'est le lieu où est rassemblée la collection. Et ça n'a de nom, l'héritage c'est la cave, mais vous allez voir, c'est plutôt un laboratoire et une pièce avec un grand nombre de frigos, de caves à 12 degrés. Et écoutez, on va vous montrer tout ça.
Ah ben on vous suit. Ah, c'est par là-bas.
Pardon, je précède.
Ah ben précédez-moi, vous êtes chez vous.
Voilà, alors là, on arrive vraiment dans ce qui est l'alpha et l'oméga de l'osmothèque, le cœur. C'est vraiment là que bat le cœur de l'osmothèque. Donc, nous sommes au milieu d'une partie de la collection. Donc, nous avons deux salles. Cette première salle avec la moitié de nos parfums. Donc, il y en a à peu près 3000 dans cette salle. Et ensuite, le complément, les autres 3000, plus la partie laboratoire quand on aura passé la porte à droite.
Mais ça, ce sont des cave à vin, enfin je le dis comme ça, mais ce genre de frigo vitré dans lequel on peut mettre des bouteilles, ça ressemble à ça en tout cas.
Mais c'est tout à fait le même principe que la conservation du vin, donc vous avez parfaitement raison. On s'est facilité la tâche parce qu'aller commander chez un fournisseur des caves à parfum, ça n'existe pas. Donc par praticité, on a transposé sur des caves à vin qui ont les mêmes propriétés que celles qui nous intéressent. Et peut-être que je vais passer la parole à Thomas Fontaine.
Venez avec nous, monsieur. Bonjour. Thomas Bonjour. Fontaine.
Oui, tout à fait. Bonjour, enchanté.
Vous présidez l'osmothèque.
Depuis 5 ans, oui. Je suis parfumeur au départ, donc c'était l'osmothèque avait été créée par des parfumeurs pour des parfumeurs, mais aussi pour le grand public. Et statutairement, le président doit être parfumeur créateur. Donc c'est mon métier, mon premier métier, étant donné que mon activité pour l'osmothèque est purement bénévole.
Donc parfumeur.
Parfumeur créateur.
Quelle maison?
Eh bien, j'ai ma propre maison, j'ai ma propre société qui s'appelle Palida, qui est une société de création pour d'autres sociétés. Donc, je travaille pour des maisons comme Lubin, Patou, j'ai travaillé pour Patou, Scherrer, etc.
Jean Patou.
Et je suis l'homme de l'ombre pour toutes ces maisons-là.
Avec la présidence, donc un travail d'équipe, hein.
Avec une équipe très active, très passionnée, parce que c'est un métier qu'on peut pas faire autrement et, c'est pas simple, il y a beaucoup de tâches et je dois saluer le travail de toute l'équipe de l'osmothèque, les permanents de l'osmothèque qui se vouent à cette tâche corps et âme.
Voilà, vous ne faites pas tout. dans cette histoire-là, dites-nous, Thomas Fontaine, il y a le regard du parfumeur sur l'archive du parfum. Oui. Vous en avez besoin, vous aussi ?
Alors, c'était même l'idée originelle de la création de l'Osmotech, c'est que nous, en tant que parfumeurs, on fait souvent référence à des accords. Et ces accords sont nés avec des parfums qui ont été lancés à une certaine époque. En l'occurrence, un des grands révolutionnaires de la parfumerie, par exemple, c'est François Coty, qui a créé des accords comme l'origan, comme le chypre, qui sont rentrés dans notre vocabulaire et qui correspondent à des familles de parfums. Le problème, c'est que ces parfums ne sont plus commercialisés, donc on ne peut plus les sentir. Donc, on parlait un petit peu dans le vide. Donc, l'idée a été de retrouver les formules, de les repeser à l'identique, et de donner la possibilité de les sentir, donc de se rendre vraiment compte ce qu'est un chypre. C'est 5 matières premières qu'on met ensemble, donc la mousse de chêne, le patchouli, le ciste, la rose, la bergamote. Mais et puis après, tout ça a évolué. Mais ça, sans vraiment sentir comment il était à l'époque, ça n'a pas énormément de sens. Et même si certains parfums sont encore sur le marché, du fait qu'on est sous le joug d'un certain nombre de réglementations, on est obligé de modifier les formules, certaines matières premières disparaissent. Donc, ça n'est plus vraiment la même chose. Donc, on est obligé de se repencher sur les formules originelles. Et l'Osmotech donne cette possibilité-là. Ça a été fait pour les professionnels, puis après, bien évidemment, pour le grand public. Et ça positionne un peu l'Osmotech comme une passerelle entre deux mondes, le monde professionnel dont on est issu, et puis ce monde culturel, ce monde grand public, qui est constitué de personnes qui adorent le parfum, qui sont passionnées par le parfum, qui veulent en connaître plus, ou tout simplement de gens qui s'intéressent d'une façon sporadique du parfum, mais qui ont quand même envie d'avoir une idée sur ce qui se passe autour du parfum, de mieux comprendre le parfum. Et c'est l'Osmotech qui va pouvoir vous l'enseigner.
Anne-Cécile Pouin.
Oui, et c'est vrai que l'Osmotech a été une institution assez précurseur, finalement, pour donner accès à cette connaissance du monde et des dessous, j'ose dire, de la parfumerie, parce que il y a une quarantaine d'années, on ne connaissait pas le travail des parfumeurs. C'était des gens qui étaient dans leur laboratoire, qui travaillaient dans le secret. Et quelque part, cette institution a eu le mérite, peut-être, de donner accès à cette connaissance de qu'est-ce qu'un parfumeur, qu'est-ce qu'un parfum, comment on le conçoit, comment on l'imagine, quels sont les ingrédients qui entrent dans sa composition. Donc il y a vraiment eu un rôle de faire connaître ce monde du parfum, avec aussi l'ambition de faire comprendre que c'est pas un simple assemblage de choses qui sentent bon qui permettent de faire un bon parfum. Et ça, c'est quelque chose qui est qui mérite d'être expliqué et d'être compris quand on veut commencer à vraiment s'intéresser au sujet parfum.
Le cours de l'histoire se trouve dans l'Osmotech, avec là devant nous. Tous ces frigos, on dit comme ça, vous utilisez quoi comme vocabulaire, vous ?
Oui, on dit frigo, cave.
Le terme frigo est tout à fait adapté. Le but est de préserver. Le plus grand danger pour la conservation des parfums, c'est l'oxydation, c'est-à-dire l'action de l'oxygène sur un certain nombre de constituants du parfum. Donc on va essayer de préserver le parfum. D'abord du contact avec l'oxygène, donc on introduit un gaz lourd dans chaque flacon qui empêche le contact avec l'oxygène de l'air. Et puis pour ce qui est, qui reste un petit peu, on va aussi essayer de limiter l'activation de l'oxydation, donc qui est donc les stimuli de l'oxydation, ça va être la chaleur, ça va être la lumière. Donc on a des flacons qui sont anti-UV, dans des armoires anti-UV et dans une température basse qui va réduire cette oxydation. Ça n'est pas absolu malheureusement, mais ça permet de conserver les parfums dans les meilleures conditions. C'est un travail colossal, régulier, c'est-à-dire qu'on évalue tous les parfums régulièrement pour voir s'ils sont encore en bon état. Et s'ils sont plus en bon état, on les repèse. Donc on a les formules qui sont conservées dans un coffre et on va repeser à l'identique les parfums, ou on demande à des sociétés externes, des grandes sociétés de composition comme Givaudan, IFF, etc., qui vont nous donner leur pesée. où on va demander aux marques, en l'occurrence des marques comme Guerlain ou Chanel, nous approvisionnent sur des vieilles pesées avec les vieux constituants. Puis de temps en temps, quand il manque quelques produits, nous on a une collection de matières rares qui permet de faire le complément.
Avec ici, je le vois, des milliers de flacons, donc des flacons sombres, hein, anti-UV. Oui. Il y a une étiquette, c'est la cote en fait, hein, on est dans un système d'archivage.
Oui.
Le nom de la marque, alors, on les voit, hein, c'est hyper simple, on les voit tous. Il y a Guerlain, il y a Jean Patou, il y a les parfums les uns après les autres. Dior est ici et surtout le nom du parfum et l'année 1944, 1970, 1962. Donc ce sont des parfums qui sont sortis cette année-là ou imaginés cette année-là?
Alors ce sont des parfums qui ont été lancés à cette époque-là. Alors parfois il y a aussi la date de reposée ou de la version, mais les dates qui sont la plupart du temps renseignées sont celles du lancement et qui donnent une idée justement de l'époque, d'un point de vue parfumistique, de l'époque quand le parfum était lancé. C'est-à-dire que dans les années 40, les parfums avaient leur identité, leur mode, et qui n'est pas la même que dans les années 90, qui elle-même n'est pas la même que maintenant. Donc chaque période, chaque moment de l'histoire est vraiment marqué par, olfactivement par les parfums qui étaient lancés à ce moment-là.
Eugénie Briot, historienne des parfums, mais c'est vraiment cela. Nous avons ici la toile de fond olfactive des différents moments de l'histoire.
C'est exactement ça, avec toutes ces nuances, la façon dont ces marqueurs olfactifs de personnalité ont pu évoluer au fil du temps. Et c'est fascinant de voir comment un produit qui n'a pas d'image, qui est évanescent, fugace, permet de construire la personnalité. Et la façon dont le parfum a pu jouer aussi comme un élément de la libération des femmes en particulier. Au XIXe siècle, les parfums qui étaient attendus des femmes étaient tous des parfums extrêmement floraux parce que c'était cet imaginaire de la femme fleur, d'une femme qu'on végétalisait d'une certaine façon pour la désanimaliser d'autant plus et la tenir dans son rôle voilà, de fleurs fragiles, comme la tenue vestimentaire, hein, pouvait l'évoquer aussi. Et puis au fil du temps, eh bien, ces modes ont pu évoluer avec des parfums qui sont devenus plus capiteux, plus sensuels, et des imaginaires de marque aussi qui ont énormément construit le succès de certains parfums, avec un point de rupture dans les années 70, la fin des années 70. Un parfum comme Opium, par exemple, va vraiment, du fait de sa communication publicitaire, mettre en avant une sorte de liberté, notamment la liberté d'accès au plaisir pour les femmes, qui n'était pas du tout de mise dans les communications précédentes. Et suite à Opium, c'est cette mode des années 80 pour beaucoup d'opulence, beaucoup de volume olfactif qui va l'emporter. Donc les modes se succèdent, mais il existe comme ça certains parfums qui les font basculer d'un imaginaire à l'autre avec ce pouvoir de la communication qui n'est évidemment pas neutre pour promouvoir un parfum. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce produit qui n'a pas d'image finalement permet plus facilement que le vêtement de se glisser dans un autre état d'esprit, une autre accessoirisation de soi. Parce qu'il ne se voit pas, finalement, on peut peut-être se lancer dans le parfum sur des choses plus audacieuses que ce qu'on le ferait d'un point de vue vestimentaire. Et ça donne énormément de liberté pour s'emparer de l'image que l'on veut projeter aux yeux des autres.
Et d'ailleurs, il est toujours le reflet en fait de son époque, le parfum. Et là, devant ce frigo, par exemple, on est sur un parfum 1936 chez Jean Patou, les accords de Matignon. La grande maison luxueuse Patou sort vacances. Donc en fait, vacances, première semaine de congé payé. Et donc en fait, c'est assez touchant de voir que, en 36, ces congés payés, la maison de haute couture Patou s'intéresse au sujet et en fait un parfum qui va s'appeler Vacances. Le parfum est toujours le reflet du moment.
Avec l'idée, je vois un parfum 1935 Normandie. Vous voyez,
Là encore, Jean Patou va suivre l'actualité. Et en 1935, pour le lancement de la première croisière du liner, donc le Normandie de la CGT, hein, de la Compagnie Générale Transatlantique, que Patou va lancer ce parfum et qu'il va offrir aux femmes de la première classe, qui est un accord chaud cuiré qui rappelle justement ce côté cosy des salons précieux du Normandie. Quand on voit comment était décoré le Normandie, on imagine tout à fait le parfum. Et ce parfum était logé dans un flacon en forme de bateau avec un côté chromé qui était absolument joli.
Donc ça sentait bon, c'était pas que beau. Avec cette histoire des parfums Eugénie Brillaud, on a ici, et les dates sont inscrites sur les flacons, cette histoire en fait de notre manière de se représenter soi-même, parce que le parfum c'est extrêmement intime, peut-être la manière dont nous nous représentons les autres socialement. Vous, historienne du parfum, une fois que vous avez tout ça en place, c'est gigantesque. Comment se construit l'approche possible ? Parce que un flacon, ça dit quelque chose, mais ça ne dit pas son utilisation. Donc il y a l'obligation de croiser les sources pour percevoir ici l'importance de tel parfum. D'ailleurs, certains doivent exister toujours, d'autres ont complètement disparu.
Oui. Alors c'est vrai que d'autant plus depuis cette période d'industrialisation du 19e siècle, le parfum est difficilement déconnectable de la communication qui l'accompagne, de la publicité qui va le faire vendre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est finalement de croiser la source documentaire, le visuel publicitaire, plus tard la vidéo publicitaire, et ce que ça pouvait sentir. La plupart du temps, il y a une espèce d'adéquation entre les deux. Quelquefois, c'est moins le cas. En tout cas, c'est très intéressant de voir quels sont les parfums qui font basculer les tendances d'une vogue vers une autre. Les parfums qui vont être de très gros succès et ceux qui vont être davantage au second plan, qui ont leur intérêt évidemment, mais qui vont tracer un petit peu la toile de fond d'une période, et ceux qui vont influencer la tendance de l'époque ultérieure. Et c'est aussi tout simplement le rayonnement en termes de chiffres de vente qui va montrer l'ampleur du phénomène et la durée de vie aussi du parfum sur le marché. Certains parfums sont très éphémères, ils ne rencontrent absolument pas le succès escompté dès les premières années, et d'autres s'installent sur des durées qui peuvent être de l'ordre de décennies. Certains parfums qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale sont toujours aujourd'hui sur le marché. Je pense à L'Air du Temps, Nina Ricci, c'est un parfum qui a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale et qui était symbole du retour de cette paix avec les colombes sur le flacon. Et c'est un parfum qui existe toujours aujourd'hui. Donc certains sont à l'épreuve du temps et leur imaginaire résonne encore.
Eugénie Brillaud, le parfum réalisé par Guerlain pour l'impératrice Eugénie est toujours en vente.
Oui, il est toujours en vente. Alors, il est évidemment cher à mon cœur. C'est l'eau impériale de 1853 et c'est un cadeau un petit peu officiel de la maison Guerlain à l'occasion du mariage entre Eugénie de Montereau et Napoléon III. Il a rencontré un succès du fait de ce contexte d'engouement pour le couple impérial et il existe toujours sur le marché aujourd'hui.
Ça fait un peu faillot quand même de créer un parfum pour le mariage impérial.
Il était tout à fait dans l'air du temps de l'époque, c'est-à-dire que c'était une cologne absolument délicieuse et c'était un parfum du meilleur goût, évidemment, qui correspondait exactement à ce qui était attendu d'une impératrice.
Bon, alors parmi tous ces flacons, il y en a des gros, il y en a des petits. Cécile Pouan, ça veut rien dire, hein. C'est pas les gros, ils sont importants, les petits sont pas importants.
Alors non, les petits sont plus problématiques parce que ça veut dire qu'il y en a pas beaucoup et qu'on a des denrées qui sont très précieuses parfois et d'autres qu'on a en plus grande quantité. Pour rebondir sur ce que disait Eugénie, à contrario, on a aussi des parfums qui sont absolument, enfin qui ont complètement disparu, et c'est tout l'intérêt d'une collection de type conservatoire. Je pense à Paul Poiret, par exemple, avec Le Fruit défendu, un parfum de 1914, qui aurait dû passer complètement sous les radars parce qu'aujourd'hui il n'existe plus, il n'y a que à l'osmothèque qu'on peut le sentir, qui est un parfum qui est fondamental parce qu'il annonce quelque chose qui ne trouvera pas son public au moment où il sort, entre 14 et 18, contexte un peu particulier aussi pour peut-être faire un succès de parfumerie, mais il apporte olfactivement, et je vais passer la parole au parfumeur pour en parler, quelque chose de très important qui ne trouvera son public que 80 années plus tard. Et j'évoque là la famille des parfums fruités gourmands. Donc, ce sont des témoignages précieux, ces parfums totalement disparus que presque plus personne ne connaît et qui, évidemment, sont pour nous des piliers de la collection de l'Osmothèque aussi. Donc, le succès commercial et le passage des années est un élément, évidemment, très important, mais pas le seul pour nous. Conservatoire.
Alors effectivement, nous, en tant que parfumeurs, on va se plonger dans... Et c'est aussi moi ce qui me motive dans ce travail au sein de l'Osmothèque, c'est pouvoir sentir des pépites et des sources d'inspiration. Hein, le fruit défendu et ce travail autour de la pêche, de l'abricot, qui en fait ce premier gourmand, qui influencera derrière beaucoup d'autres parfums, peut-être d'une façon beaucoup plus atténuée. Bon, je pense tout de suite aux femmes de Rochas en 1944, par exemple, mais il y a d'autres parfums qui s'inspireront de la note fruitée, jusqu'à arriver à une espèce de paroxysme où la note gourmande sera traitée légèrement différente au début des années 90 avec un parfum qui est le Angel de Thierry Mugler. Mais on voit vraiment là des influences qui sont assez importantes les unes avec les autres. Et nous, ça nous inspire parce qu'il y a parfois des équilibres qui sont dans certains parfums anciens qu'on n'oserait même pas maintenant. Parce qu'on est quand même aussi dans une parfumerie beaucoup plus polissée. Donc quand on veut sortir de ça, il est intéressant de se dire, tiens, il y a ce déséquilibre, cette outrance, cette overdose, ce surdosage. Eh bien, pourquoi je n'irais pas dans cette voie-là ? Donc, en tant que parfumeur, on s'inspire de toutes ces images olfactives, ces créations, pour nous-mêmes travailler sur d'autres créations beaucoup plus contemporaine.
Je pense que c'est intéressant de poursuivre l'échange sur les cours royales parce que la parfumerie française, en tout cas, elle va prendre aussi ses lettres de noblesse également grâce aux commandes royales, grâce au fait que les têtes couronnées vont s'emparer du sujet parfum, vont être les premières égéries finalement et les premiers représentants de ces grandes maisons françaises. On est ici à Versailles, hein, la capitale royale du parfum, et c'est important parce que la cour va jouer un rôle très important des premiers rois jusqu'aux empereurs pour être les ambassadeurs de la parfumerie française.
Oui, alors Louis XIV avait à titre personnel une passion pour la fleur d'oranger. Nous en avons hérité à travers l'orangerie de Versailles qui a été construite pour les besoins de la fabrication de l'eau de fleur d'oranger et aussi pour les besoins que le roi avait de voir Versailles sentir la fleur d'oranger absolument partout et on trouvait des orangers jusque dans la galerie des glaces. Et évidemment, au fil du temps, comme pour d'autres produits de luxe, hein, les couples royaux ou impériaux et la cour en général a servi terrain d'expression privilégié de tout ce que les arts pouvaient fabriquer de plus beau et la parfumerie en a fait partie pour promouvoir aux yeux du monde ce qu'était le goût à la française et le diffuser à l'échelle de l'Europe, puis aussi du Nouveau Monde qui a été énormément inspiré par la cour de France.
Moi, j'ai deux questions, Thomas Fontaine, de vocabulaire. Déjà, vous dites parfumeur, vous êtes né ?
Tout à fait.
N-E-Z, hein, c'est comme ça.
N-E-Z, oui. Alors, c'est un terme qui est parfois mal apprécié ou peu apprécié par les parfumeurs. C'est comme si on disait qu'un peintre, c'est une main. Donc, voilà, c'est un appendice. Nous, pour nous, la création olfactive est avant tout cérébrale et quand on fait un parfum, avant tout, on écrit une formule. Donc, c'est notre principal outil, ça va être d'abord le stylo. Maintenant, l'ordinateur, mais le stylo. Donc, on écrit une formule, sachant déjà ce vers quoi on va tendre olfactivement, voire même, on sait plus ou moins déjà ce que ça va sentir. Le nez rentre en compte ou en action qu'une fois que l'échantillon est pesé, donc cette formule est donnée au laboratoire, c'est pesé, c'est comme une recette de cuisine. Hein. Vous avez un certain nombre de matières premières et vous avez des poids qui sont afférents à chaque matière première. C'est pesé au laboratoire et puis vous recevez votre échantillon, dilué dans de l'alcool ou dans un autre médium, mais peu importe, et vous sentez. Et là, vous contrôlez, vous dites « Ok, ça correspond à ce que j'avais imaginé » ou ça ne correspond pas et ben, je vais modifier. Voilà. C'est un travail assez empirique qui se met en place, mais toujours dirigé par votre esprit. Donc le terme « nez », ce n'est pas parce qu'on sent que ça correspond à notre travail. Maintenant, bon, moi, je suis un peu plus, j'accepte plus facilement le qualificatif parce que c'est un qualificatif que tout le monde comprend. Mais le vrai terme, c'est parfumeur-créateur, qui est notre métier.
Et vous avez répondu à ma deuxième question de vocabulaire sur la pesée, parce que je voulais savoir ce que c'était. Mais c'est ça, c'est la composition, comment on recrée un parfum. Mais l'idée de peser nous conduit à l'idée de balance. Donc j'imagine qu'il y a bien une balance quelque part ici. Ben, où est la balance?
Et ben, vous allez voir, c'est dans le laboratoire et c'est l'outil incontournable du laboratoire, étant donné que on ne peut pas faire un parfum sans peser un concentré, parce que le parfum c'est un mélange d'alcool et d'un concentré, et ce concentré doit être pesé en laboratoire. Et là vous avez l'outil incontournable. Donc ce sont des balances très précises, hein, qui sont au centième voire même au millième, et qui nous permettent de peser des échantillons pour pouvoir être senti, et généralement on ne sent pas dans le laboratoire, on va sentir dans un autre lieu, parce que là, comme vous pouvez le sentir, ça sent une espèce de mélange. Nous, on appelle ça presque le millefleur, parce que le millefleur, c'est là où on met tous les rebuts du laboratoire, et c'est un mélange plutôt agréable, plutôt plaisant, mais qui est quand même un capharnaüm olfactif. Donc on va s'isoler dans d'autres pièces. Généralement, on a un bureau où on va sentir nos échantillons tranquillement, au calme aussi.
Là, nous retrouvons les frigos avec tous ces petits flacons d'archives, toujours les cotes, le nom, la date. Mais alors là, ce que je vois, ça ressemble un peu à du flacon d'apothicaire très ancien avec à l'intérieur des matières solides. Donc là, c'est pas du parfum. Enfin, si, c'est du parfum, mais c'est pas une création.
Ce sont des matières premières. Alors d'abord, d'un côté, vous avez des matières brutes pour vous donner une idée d'où viennent certains produits. Et puis, vous avez l'orgue qu'on a récupéré, qui nous a été donné par le fondateur et les anciens propriétaires de la maison Jean Patou. L'orgue de la maison Jean Patou, qui sert au repesé des parfums en interne. Donc, alors, les matières premières ont été changées, mais les flacons restent, qui est vraiment aussi une des missions de l'Osmotec, c'est que on va essayer de récupérer un certain nombre d'archives qui représentent l'histoire de la parfumerie. L'orgue de Jean Patou est quand même, de la maison Jean Patou est quand même un des principaux éléments de notre histoire.
Anne-Cécile Pouhan, cet orgue-là, orgue, c'est-à-dire plein de petits flacons qui constituent toutes les odeurs premières possibles, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer?
Alors, toutes, je ne pense pas, mais en tout cas, celles dont les parfumeurs qui nous intéressent vont avoir besoin pour repeser les parfums. Moi, j'aime bien, mais je ne suis pas parfumeur, mais j'aime bien dire qu'en fait, que ce sont toutes les petites notes qui vont assembler, permettre de faire des accords, qui assemblées également vont permettre de construire finalement une partition que sera le parfum. Donc, on a beaucoup de vocabulaire en commun avec la musique, et ce qui prouve bien que la parfumerie est un art au même titre que la musique.
La musique ou la peinture, parce qu'il y a un côté palette aussi, combien d'ailleurs de couleurs dans cet orgue?
Alors, cela dépend des sociétés. Hein. Il y a certaines sociétés très importantes. On a par définition plusieurs milliers de matières premières à notre disposition, sachant que chaque parfumeur fait sa sélection. On a 3-4 000 possibilités, mais un parfumeur utilise, parce qu'il les connaît bien, parce qu'il les maîtrise bien, 300, 400, 500 matières premières régulièrement, et puis de temps en temps il va picorer dans le reste de la collection au fur et à mesure de ses créations des notes qu'il n'utilise pas souvent.
Alors, où est le parfum romain Pline? Donc c'est quoi, parfum 1er siècle? Donc on peut dire il est dans ces frigos-là, il est quelque part, tout comme ce parfum égyptien de l'Antiquité, il est quelque part, il a été... J'allais dire reconstituer, c'est quoi? C'est repeser, peser.
Alors, pour le ces parfums-là, alors autant la parfumerie, ce qu'on appelle moderne, qui correspond à la révolution industrielle, donc 19e, 20e, on a ce qu'on appelle des formules. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on passe du terme de recette à la formule, donc, qui est quelque chose de très rigoureux, avec un certain nombre de matières premières, avec leurs indications, les spécificités de chaque matière première, et puis le poids, bon, voilà, c'est des grammes, c'est assez facile, donc la mesure est facile. Pour tout ce qui est antérieure, la notion de proportion, de quantité est très aléatoire. La notion d'identification des matières premières est aussi assez aléatoire, sachant que, par exemple, autrefois, l'encens, c'est tout ce qui se brûlait, et non l'encens spécifique comme on le considère maintenant, qui est le boswellia, qui est défini botaniquement. Et donc là, on va devoir faire des interprétations. Donc là, c'est vraiment le travail sur ces vieilles formules. Il y a ce qu'on appelle une reconstitution. Donc il y a des choses qu'il faut choisir et appréhender d'une façon plus aléatoire.
Eugénie Brio, donc ce passage de la recette... Il y a un côté cuisine aussi à la formule. On voit bien que nous sommes presque, et même quasiment, dans une démarche scientifique. Pour faire un parfum, c'est quoi l'idée ? C'est d'avoir quelque chose qui lie l'ensemble avec des éléments que l'on rajoute.
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, le parfum, sous sa forme la plus fréquente, il est dans l'alcool. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement assez récent à l'échelle de l'histoire, parce que la parfumerie alcoolique, évidemment, n'est possible qu'à partir du moment où l'alcool existe et est disponible en quantité suffisante. Donc ça va s'installer à partir du Moyen-Âge. La première description de l'alcool en tant que tel, on la trouve en 1300, dans un ouvrage. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire que oui, une certaine parfumerie alcoolique a pu voir le jour. Mais... dans l'Antiquité, on est sur des bases qui sont huileuses ou de corps gras, en tout cas, plus ou moins solides, plus ou moins liquides, des onguents ou des huiles. Et c'est une parfumerie tout à fait différente. Et il y a eu tout un processus au XIXe siècle, finalement, de normalisation des matières premières pour les faire devenir des matières premières à peu près équivalentes en termes de puissance et assez faciles à dissoudre dans l'alcool. Mais ça, ça s'est fait doucement. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va entrer dans les formules plutôt que dans les recettes, quand on va avoir ce système de matières premières dans des petits flacons autour du parfumeur à disposition. Alors même aujourd'hui, il y en a encore qui sont à l'état solide et qu'il faut préalablement faire fondre ou autre. Mais ça a été une quête finalement d'obtenir des matières premières qui soient solubles dans l'alcool et de degrés de puissance à peu près comparables.
Anne-Cécile Pouan, vous avez donc tous ces parfums, donc on comprend hein, pourquoi ce sont des frigos pour conserver l'alcool, parce que c'est de l'alcool aussi en partie.
C'est beaucoup d'alcool. Alors, pour rebondir sur ce que disait Eugénie, on a un témoignage ici, on va peut-être le sortir du frigo pour vous le montrer, d'une des premières utilisations de l'alcool dans la parfumerie. Donc on est sur les ancêtres de l'eau de Cologne. On a l'eau de la reine de Hongrie. Alors, avec des origines un peu compliquées, on serait autour de 1370, mais ça apparaît dans les traités un peu plus tard. Donc on a quelques doutes sur la réalité exacte de la date qui se trouve là, mais on est clairement sur un ancêtre des eaux de Cologne. Et vous me posiez la question sur l'onguent royal. L'onguent royal se trouve dans ce frigo-là. Et donc, nous ne sommes pas sur un support alcoolique, puisque ce sont le vin, le miel et l'huile qui servent de liant et de préservateur, on va dire, pour le parfum. Et là, vous avez uniquement le résidu, en fait, de ce qui a permis, une fois broyé, mélangé, de faire ce fameux parfum royal. Vous parliez de cuisine, je vous invite à le sentir, on est clairement dans un registre qui pourrait être celui de la cuisine.
Donc ça, c'est romain, c'est la description de Pline. Pline, on est au 1er siècle après Jésus-Christ et... Ah ouais, quand même, hein. Mais vous avez raison, il y a un côté cuisine, alors...
C'est très épicé, donc on voit tout de suite le mélange, hein. Il y a beaucoup d'épices. Sachant qu'à l'époque aussi, il y avait une proximité entre la pharmacie et la parfumerie, car beaucoup de matières premières utilisées en parfumerie ont un pouvoir bactéricide. Donc, qui va préserver soit les corps, donc ce qui sera utilisé pour l'embaumement des momies, soit la nourriture, pour la viande qui était conservée parfois dans des conditions un petit peu délétères. Donc, on va utiliser la girofle qui est un puissant bactéricide, que même... moins maintenant, mais chez le dentiste, les dentistes, il n'y a pas encore si longtemps, utilisaient de l'essence de girofle quand vous aviez une carie pour désinfecter la carie, puis c'était un peu anesthésiant, c'était pas plus mal aussi.
Bah, j'ai vu, là, il y a un gros pot de clous de girofle, voilà, je reconnais. Donc, je me dis, ma cuisine, c'est un peu une toute petite osmothèque. Ces matières premières, on peut en voir
Mais bien sûr.
On va à côté. Ah bah, super, allons-y. Alors, c'est par là. Eugénie Brio, c'est quand même incroyable, ce parfum de Pline. Donc, c'est quoi? C'est un parfum pour qui? Pourquoi?
C'est un parfum qui est décrit dans l'histoire naturelle de Pline comme étant le parfum du roi des Parthes. Alors, Pline mentionne d'autres parfums, des parfums égyptiens, le métopion ou autre, mais dans toute la liste, il y a celui-ci dont il donne les ingrédients, mais pour ces ingrédients, il n'indique pas les quantités. Et c'était tout le tour de force pour le parfumeur Jean Carléo qui a recomposé ce parfum. C'était du fait de sa connaissance très fine des matières premières, d'imaginer ce qui était probable et ce qui allait créer un bel équilibre entre toutes les matières premières présentées juste sous la forme d'une liste par Pline.
Et c'est un parfum solide, hein. C'est pas du tout du parfum liquide comme on imagine aujourd'hui de l'eau de Cologne ou des choses comme ça.
C'est un parfum solide et jusqu'au développement de la parfumerie alcoolique, tous les parfums seront des baumes, des onguents, des supports huileux ou plus ou moins graisseux. Évidemment, donc on est loin de cet imaginaire du pchit-pchit qui est celui que nous avons autour de la parfumerie aujourd'hui.
Non, mais c'était important de le rappeler. Dites donc, Thomas Fontaine, dans ces bocaux. Alors, non, là, je disais que ça ressemble beaucoup à des choses d'apothicaire, parce que on se croirait dans un muséum d'histoire naturelle.
C'est ce que vous pourriez retrouver même chez un apothicaire ou un apothicaire en Chine, parce que la pharmacopée chinoise utilise beaucoup de ces produits-là. Alors là, vous avez un certain nombre de produits excessivement rares, dont un qui est l'une des plus belle pépite qu'on a au sein de notre collection de parfums rares, de matières premières de parfums rares. Alors là, vous avez des poches de musc. Donc ça, c'est un produit qui est purement introuvable, étant donné qu'on ne peut plus s'en procurer à l'heure actuelle. L'animal, alors on était obligé de le sacrifier pour récupérer ses glandes. Ce sont des glandes sexuelle qui servait beaucoup au niveau de la reproduction. Et donc, on était obligé de tuer l'animal. Maintenant, l'animal est protégé. Il était en voie de disparition, donc on ne peut plus en tuer. Donc, l'industrie de la parfumerie n'utilise plus cette matière première-là depuis des décennies maintenant. Mais à l'osmothèque, on a gardé, à des fins de repeser, justement, des poches avec lesquelles on va refaire de l'infusion au fur et à mesure de nos besoins. Et ça, c'est un stock qui date de plus de 50 ans. Et je vous laisse surtout sentir...
Non, mais attendez, c'est... Ah ouais, quand même. C'est costaud,
oui,
hein.
Oui,
c'est,
alors,
quoi, c'est quoi comme animal?
Alors, c'est un chevrotin, une petite chèvre. C'est le chevrotin post-mus qui vit sur les flancs de l'Himalaya, au Népal, etc. Donc, c'est un petit animal, comme un petit chevreuil, qui a la particularité d'avoir deux petites dents, hein, comme vous savez, les deux petites dents de sabre, et qui, au moment de la période de reproduction, va avoir une sécrétion particulière. Forcément, on peut imaginer. Ça fait partie des pépites. Alors, il y en a d'autres aussi. Alors ça, l'ambre gris, ça, c'est beaucoup plus facile parce que c'est un produit qu'on peut toujours se procurer, étant donné que c'est une concrétion stomacale dans un cachalot, dans l'estomac d'un cachalot, parce qu'il va manger des calamars, il y a les becs de calamars qu'il ne digère pas. Donc, dans son estomac se crée cette concrétion et il la rejette naturellement. Et d'autant plus que l'ambre, pour qu'il soit bon, il doit être ce qu'on appelle flotté. Donc, c'est un peu comme une pierre ponce. Il va flotter à la surface des océans. Et donc, l'action du sel et du soleil va maturer ce produit. Là, tout simplement, il faut le chercher sur les plages. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Ils ont des chiens comme les chiens truffiers qui sont spécialisés à la recherche de l'ambre gris. Et donc, ça, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est quand même la rareté, la difficulté de s'en procurer. Donc c'est un matériau qui est quand même très, très rare. Mais Et alors là, en infusion...
Ah bah non, mais c'est très présent. Hein.
C'est très présent. Mais quand vous avez une infusion qui est un peu vieille, le parfum est presque comme un vieil Armagnac, vous voyez. C'est délicieux, c'est absolument délicieux. Donc, ce sont des produits qui sont très importants pour nous parce qu'ils rentrent dans beaucoup de vieilles formules, surtout des formules du début du siècle dernier, et qui vont apporter toute la sensualité, la chaleur, la richesse, qu'on va garder là encore, à des vues, ne serait-ce que de les ressentir, savoir ce que ça sentait, parce qu'on parle maintenant, tous les muscles, ce sont des muscles synthétiques qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas cette note animale, qui n'ont pas tous ces éléments-là, qui sont presque même synonymes de l'odeur du propre, alors que là, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu corsé.
Très animal. Alors, on va quitter la salle avec les frigos, les flacons. Eugénie Briot, mais là, ce qu'on vient de voir... Ce sont beaucoup d'éléments qui viennent des animaux, que ce soit la biquette de l'Himalaya, que ce soit les castors. Ce sont des odeurs très fortes, très puissantes. Est-ce qu'il y a une histoire qui peut être écrite entre ce qui est floral, ce qui est animal ? Comment c'est perçu par rapport à celles et ceux aussi qui vont porter des parfums ?
Oui, alors c'est aussi pour leur dimension symbolique que les matières premières animales ont pu être utilisées à certains moments, parce qu'il peut y avoir cette dimension symbolique dans le choix d'ingrédients, même le nombre d'ingrédients, par exemple. Mais c'est dans leur rôle de construction sociale de l'individu que certaines matières premières ont pu, à certaines époques, être écartées. Et les matières premières animales, au XIXe siècle, sont vues comme une abomination absolue. Il est hors de question qu'une femme respectable puisse porter des odeurs aussi sensuelles, même si elles peuvent être nécessaires à la construction du parfum, même un parfum floral. C'est-à-dire qu'à toute petite dose, ces matières premières animales étaient largement utilisées par les parfumeurs de l'époque, ne serait-ce pas parce qu'elles apportaient de la tenue dans le temps au parfum. C'est des matières premières qui sentent non seulement très fort, mais qui sentent aussi plus longtemps, finalement, que certaines matières premières florales. Or, il était inconvenant pour une femme de les porter. Donc, on trouve, c'est assez amusant, chez certains parfumeurs, dans des traités, des petites mentions, des recommandations à d'autres parfumeurs qui disent « utilisez autant que vous le souhaitez pour la construction de votre formule et pour la tenue du parfum, mais ne le dites jamais parce que les femmes refuseraient de le porter. En tout cas, les femmes de la meilleure condition, puisque pour d'autres femmes, non pas les femmes comme il faut, mais les femmes comme il en faut, ces notes étaient au contraire recherchées. Elles pouvaient faire partie de leurs attributs et de leurs artifices de séduction, bien sûr.
Anne-Cécile Pouhan, est-ce qu'il y a des parfums anciens, alors j'allais dire reconstitués, donc repesés, hein. J'essaye d'utiliser le vocabulaire, j'ai bien compris, parce que c'est cette construction qui est absolument magique, qui aujourd'hui ne passe plus. Est-ce qu'il y a quand même l'évolution là de notre perception, hein, qui apparaît nettement, ou alors est-ce que à chaque découverte d'un parfum du début du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, vous vous dites « Ah oui, non, mais il y a quelque chose qui correspond à des goûts d'aujourd'hui ».
Alors c'est un peu une question piège, parce que je pense que le bon goût, le mauvais goût et les goûts très atypiques se trouvent dans toutes les époques, et ce qui fait le bon goût d'aujourd'hui était le mauvais goût ou sera le mauvais goût de demain. Donc dans la parfumerie, je crois qu'il y a une grande richesse, il y a une variété de production, une variété de notes, de styles, de familles qui font que on peut facilement trouver son compte dans ce qu'on aime et dans ce qu'on déteste. Je crois que toutes les époques ont eu leur tendance. Enfin, c'est comme pour la mode. Après, l'idée, c'est dans tout ce qui est produit, de trouver ce qui vous plaît, ce qui vous va, ce qui vous intéresse et ce qui fera l'effet que vous recherchez.
Puis Eugénie Briot, vous nous l'avez dit, le parfum ne vit pas que par ce qu'il est. Il vit par tout ce qu'il y a autour et notamment le flacon. Parce que nous avons toutes ces œuvres d'art, hein. Il y a la lique qui est pas loin, la création artistique, elle est là aussi autour du parfum. Puis la publicité, l'idée même du parfum. Et donc on croise Jean Patou, on croise des grands noms de cette histoire-là, Paul Poiret aussi. Et ça, c'est un moment intéressant dans cette histoire-là.
Oui, alors tout l'enjeu du parfum, c'est de rendre visible l'invisible. À partir du moment où on essaye de le vendre, il va falloir le matérialiser, lui donner une image qui soit chargée de sens aux yeux du public. D'autant plus qu'il faut le faire connaître pour que les gens aillent le sentir dans une boutique. Donc il y a tout cet enjeu qui est très pratique finalement, mais qui est à l'œuvre et qui a fait du parfum un produit dont les attributs visuels ont été, dès le début du XXe siècle, dès que ça a été possible finalement de travailler davantage sur le flacon qu'au XIXe siècle, avec des techniques qui ont évolué et qui ont permis plus d'acrobatie dans le modelage du verre et la lique en est l'illustration parfaite. Dès que ça a été possible, vraiment les parfumeurs se sont engouffrés dans cette voie pour donner une image à leur parfum qui soit mémorable, qui soit spectaculaire, qui les différencie les uns des autres aussi parce que la lutte était rude et la publicité a fait partie de tout cet arsenal visuel mis au service du parfum. Alors, les grands gagnants finalement dans cette affaire du début du XXe siècle, c'est les couturiers parce que les couturiers sont venus d'emblée avec une image très forte à l'esprit des consommateurs, à l'esprit des clients de l'époque. Le premier d'entre eux, c'est effectivement Paul Poiret. Mais il a eu un petit manque d'intuition dans le choix du nom de sa marque. Parce que les consommateurs, les clientes de Paul Poiret auraient sans doute aimé acheter les parfums Paul Poiret, peut-être plutôt que les parfums de Rosine. Il a choisi d'appeler sa ligne de parfums les parfums de Rosine parce que c'était le prénom de sa fille. Donc en tant que papa, il a été extrêmement généreux. C'était un bel hommage rendu à sa fille. En revanche, en tant que businessman, c'était peut-être un manque d'intuition de sa part parce qu'il n'a pas su finalement capitaliser sur cette aura visuelle très forte dont son nom lui-même était déjà chargé. Et la suivante, c'est Gabrielle Chanel. Et elle, en 1921, elle ne va pas passer à côté de cette aubaine que constitue le nom de sa marque en tant qu'élément fondateur de toute sa parfumerie. Elle appellera son parfum le numéro 5. Et finalement, derrière ce numéro 5, transparaît plus que tout le nom Chanel. Et cette image Chanel, elle était déjà tellement forte à l'époque qu'elle a construit tout le succès d'un parfum qui existe encore aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard.
Mais merci à tous les trois de cette visite folle dans l'osmothèque, parce que on ne peut imaginer conserver des parfums, des odeurs. Or, c'est possible, et surtout les reconstituer, les repeser.
Les repeser, c'est vraiment ça, qui est important, parce que vous avez la possibilité. Vous êtes venu dans une espèce de machine à remonter le temps. Et cette machine à remonter le temps, eh bien, quand vous sentez un parfum, ça vous transpose tout de suite dans l'époque où il avait été lancé. D'ailleurs, ce qui est presque troublant pour nous, c'est que parfois même, on a des gens qui viennent et qui viennent sentir un parfum et on les voit fondre en larmes. Alors, on se dit, qu'est-ce que j'ai dit? Et là, tout simplement parce qu'ils voient revivre devant eux un être disparu, la maman, le papa, etc. Et le choc émotionnel est tellement puissant et tellement important que forcément, mais là, il y a une réaction, c'est la crise de larmes. Et ça, c'est, on est très touché quand ça nous arrive parce que vraiment, là, on crée une émotion. Ce qui est le but du parfum, c'est de raconter une histoire et créer une émotion.
Et c'est vrai qu'on a coutume de dire ici qu'un conservatoire de parfums, outre conserver, on va dire, l'art des parfumeurs, c'est un conservatoire d'émotions. Et dans toutes ces petites bouteilles, au-delà de la grande histoire, on va dire, des marques, des maisons, c'est aussi toutes les petites histoires que chacun a avec son parfum ou le parfum de quelqu'un qui a compté pour lui. Et ça donne une dimension qui est assez magique, en fait, à notre travail, qui finalement est de conserver aussi des parts, des morceaux de vie, des morceaux d'émotion. Et comme le disait Thomas, c'est particulièrement touchant et ça donne aussi une belle noblesse à ce que peut être un conservatoire de parfums.
Merci beaucoup. Merci Thomas Fontaine. Merci Anne-Cécile Pouhan. Merci Eugénie Briot. La Fabrique des Parfums, c'est votre ouvrage. Et merci d'avoir évoqué cette émotion du parfum, émotion de l'archive et cette émotion qui nous relie à l'intime. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci. Merci à vous.
C'est-à-dire que moi, le parfum qui est inscrit à jamais dans mes narines, c'est celui que dégageait la mousse à raser de mon grand-père. Ce parfum de mousse à raser, c'était le parfum de l'amour, sans contrepartie, sans qu'on m'engueule, sans qu'on me dise « fais ci, fais ça ». Alors ce parfum de mousse à raser, je l'ai cherché pendant les 30 ans qui ont suivi la mort de mon grand-père. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas d'où ça venait. Alors j'avais beau renifler tous les parfums répertoriés dans les grands magasins, j'arrivais pas à mettre le nez dessus. Jusqu'au jour où, dans une toute petite boutique qui payait pas de mine, j'entre pour acheter je ne sais plus quoi et je vois exposés sur le comptoir des savonnettes et des savons à barbe. Alors je promène mon nez dessus et je tombe sur une savonnette et c'était ça, et c'était la savonnette de bain ou le savon de bain, parfum fougère de Roger Égalet. Et depuis, je continue toujours à chercher la senteur fougère de la mousse à raser de mon grand-père.
C'était Odile Grand, journaliste, l'émotion des parfums, émotion de l'intime, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel avec à la technique Virginie Lorda et au mixage Marie-Claire Oumabadi, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.